accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Elle faisait plaisir à voir, cette équipe croate de football, hier soir. Après sa victoire contre les Anglais en demi-finale de la Coupe du Monde, les joueurs n'ont pas boudé leur plaisir et sont restés longtemps sur le terrain, bien après le coup de sifflet final, en compagnie de leurs enfants. À Zagreb, la ferveur populaire était délirante. Il faut dire que 20 ans après l'échec de la demi-finale de 98, c'est un tout petit et tout jeune pays qui accède à la finale tant convoitée, Laurent Gélin.
La Croatie est en finale de la Coupe du Monde de football et l'immense fierté ressentie par les 4 millions d'habitants de ce petit pays dépasse de très loin le simple cadre sportif. Alors qu'ils souffrent d'une profonde crise économique, alors qu'ils sont des dizaines de milliers à émigrer chaque année vers l'Europe occidentale, les Croates ont retrouvé l'espoir des premiers temps de l'indépendance, quand tout semblait possible après la terrible guerre qui avait suivi l'éclatement de la Yougoslavie entre 1991 et 1995. 20 ans de désillusion s'étaient écoulés depuis la mythique demi-finale de 1998 contre l'équipe de France, 20 ans à ressasser un passé pas si lointain où le jeune pays semblait promis à un avenir aussi brillant que l'équipe au damier. Et puis les grandes industries issues de l'époque yougoslave ont été privatisées ou elles ont disparu. La crise de 2008 a brisé l'émergence d'une petite classe moyenne et les enfants de l'indépendance ont dû à leur tour prendre la route de l'exil pour aller travailler à l'étranger et fuir l'étouffante corruption qui gangrène le pays. La victoire contre l'Angleterre ne va sans doute pas faire disparaître les tentations nationalistes qui se diffusent dans la société croate, mais elle apporte un incroyable vent de fraîcheur à un pays et plus largement à une région régulièrement hantée par de mauvais démons. Car dimanche prochain, c'est la grande majorité des citoyens des Balkans, même en Serbie, qui seront derrière l'équipe au damier pour la finale contre la France, pour l'honneur des Balkans.
Après Bruxelles et son sommet de l'OTAN, Donald Trump entame sa visite au Royaume-Uni ce jeudi, la première en tant que président des États-Unis. Une visite de travail et non une visite d'État comme ce qui avait été prévu au début de son mandat. Pourtant, de nombreux Britanniques s'opposent à sa venue. Ce vendredi se tiendra un carnaval de la résistance, manifestation géante à partir de la mi-journée dans le centre de Londres, organisée par plusieurs groupes différents et originaux. Le reportage de Marie Billon.
Dans cette salle polyvalente du centre des loisirs Somerville à Peckham, dans le sud de Londres, une petite dizaine de volontaires s'activent. Ils sont en train d'assembler les pancartes pour la manifestation de demain.
My name is Keith.
Je m'appelle Keith, j'ai 23 ans et je déteste Donald Trump.
And I hate Donald Trump.
Ce qu'il fait, c'est mal. Il faut le dire haut et fort. Si on ne fait rien, il va croire que ce n'est pas grave. Il faut arrêter cet homme.
Résiste.
Résister est l'un des slogans affichés sur les pancartes, explique Zoé Gartner, qui représente la Stop Trump Coalition. Cette jeune doctorante a décidé de s'investir dans la lutte contre le président américain en janvier 2017. À cette date, Trump décrétait le Muslim Ban, interdisant aux musulmans de plusieurs pays d'entrer aux États-Unis. Alors, dès qu'elle a appris qu'il allait venir au Royaume-Uni, elle a commencé à préparer ses sifflets.
So it was originally a state visit.
Au départ, ça devait être une visite d'État, un véritable honneur qui lui aurait été rendu. Ça n'a pas plu du tout. Donc les autorités disent maintenant que c'est une visite de travail. Mais il va quand même rencontrer la reine. Donc ça ressemble encore à une visite en grande pompe pour flatter son ego qui est déjà bien gonflé. Et nous, on est contre ça car c'est notre pays qui lui donne la collade.
Sur certaines pancartes préparées par les volontaires, il est juste écrit en haut « Stop Trump parce que ». Et chacun est libre de lister ses raisons. La coalition compte en distribuer plusieurs milliers, elle espère plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de participants.
La personnalité de Trump et son extrême effronterie, tellement contraire à la manière dont nous faisons de la politique ici en Europe, c'est ce qui galvanise les troupes. Pas seulement parce que nous sommes solidaires avec les Américains, c'est aussi parce que nous sommes tous touchés par le trumpisme. On voit la montée des mouvements d'extrême droite et anti-immigration en Europe et ici. Le Brexit en est la preuve. Donc nous manifestons contre les politiques du gouvernement britannique qui s'inspirent de l'idéologie de Trump.
Et c'est bien pour ça qu'avant la grande manifestation de vendredi après-midi, un étrange objet volera au-dessus du Parlement dans la matinée. Nous quittons le sud de Londres pour aller dans un petit jardin dans le nord, Bingfield Park. Les volontaires de Trump Baby Blimp sont en train de gonfler un ballon géant.
On se demandait quelle était la meilleure manière de montrer à Trump qu'on ne l'aime pas. On a vu depuis un an et demi qu'il est au pouvoir, qu'il est imperméable aux protestations classiques. Raisonner ne fonctionne pas non plus avec lui, pas plus que la diplomatie. La seule chose qu'il touche, c'est quand on se moque de lui, parce que c'est un homme vaniteux. Il déteste être ridiculisé. On a donc voulu utiliser une manière créative et humoristique pour faire passer des messages très sérieux.
Il faut plusieurs minutes pour que le ballon de 6 mètres de haut soit complètement gonflé.
C'est bébé Trump parce qu'il est orange, tout comme Donald Trump. Il a les mêmes cheveux ridicules. Il a des toutes petites mains qui agrippent un téléphone portable pour illustrer ses tweets incessants. Et il porte une couche culotte. Pourquoi ? Parce qu'il agit comme un bébé. Tout son comportement est très enfantin. C'est un bébé pas content parce que Trump est un homme plein de colère.
Nona et ses amis ont eu du mal à obtenir l'autorisation de faire voler ce ballon. Mais finalement, il y a quelques jours, la mairie et la police ont dit oui. Mais tout le monde n'aime pas ça, comme cette dame qui vit juste à côté du parc.
C'est une honte, c'est le président des États-Unis. Il a été élu par le peuple américain. Il faut le traiter comme un homme d'État.
Les représentants de Donald Trump au Royaume-Uni, eux, assurent qu'ils s'en fichent complètement, que ça ne le touche pas et qu'il a de toute façon beaucoup d'humour. Alors peut-être ne savent-ils pas que Baby Trump a été gonflé en lui mettant une pompe dans les fesses. Et ceux qui n'apprécieraient pas ce genre d'humour pourront se joindre vendredi après-midi à un autre cortège, une manifestation beaucoup plus douce. Va Pensiero, une œuvre musicale du compositeur italien Giuseppe Verdi, sera entonnée par une centaine de chanteuses et chanteurs d'opéra accompagnés par des musiciens sur Portland Square, dans le centre de Londres, aux 12 coups de midi. Granier Gillis est cantatrice. Avec plusieurs de ses collègues, elle a pu répéter, c'est ce qu'on entend ici, mais tous n'ont pas pu se retrouver et de toute façon, le public pourra aussi se joindre au chant.
La performance sera peut-être un peu chaotique, mais ça viendra du cœur. On dit souvent que le chant d'opéra est un cri joyeux, et c'est vrai que ce sont les mêmes muscles qu'on utilise.
Granier fait appel à l'art plutôt qu'à l'humour, mais ce n'est pas une attaque moins personnelle contre le dirigeant. Elle cite spontanément un extrait du Marchand de Venise de Shakespeare.
L'homme qui n'a en lui-même aucune musique et qui n'est pas ému par le doux accord des sons est propre aux trahisons, aux perfidies, aux rapines. Les mouvements de son âme sont mornes comme la nuit et ses penchants ténébreux comme les rêves. Ne vous fiez point à un tel homme. Personnellement, j'aimerais beaucoup savoir quel genre de musique écoute Trump. Je ne pense pas que le classique en fasse partie.
Chacun a ses raisons pour ne pas aimer ou se méfier du président des États-Unis. C'est bien pour ça que les organisateurs appellent l'événement de vendredi un carnaval de protestations et pas une simple manifestation.
Jesus Christ, Billy Elliot! You're a disgrace to them globes, your father and the tradition to this box and all!
Why don't you join in? Forward! Plenty of boys do ballet, you know.
Proofs.
18 ans après sa sortie en salle, Billy Elliot se joue désormais sur scène, à l'opéra de Budapest notamment. La célèbre comédie musicale a fait le tour du monde, mais dans la capitale hongroise, il déplaît aux conservateurs proches du pouvoir. Le reportage de Florence Labrouillère.
Billy Elliot est un petit garçon qui se découvre une passion pour la danse classique. Pas facile dans ce monde ouvrier où les mineurs sont en grève contre le gouvernement de Maggie Thatcher, la dame de fer. Un monde où les garçons sont censés pratiquer un sport viril comme la boxe. Mais Billy lutte pour faire accepter sa différence et il deviendra danseur étoile. Erika Bognar et son fils Christophe, un blondinet de 10 ans, sont sortis enchantés du spectacle.
C'est une pièce très moderne et c'est vraiment émouvant. C'est super de voir un spectacle sur la tolérance, accepter les autres comme ils sont. C'est vraiment important dans le monde d'aujourd'hui. Il faut oser être différent. C'est ça aussi que raconte la pièce.
Il y a encore 2 mois, la salle avait du mal à faire le plein. Il faut dire que la comédie musicale est à l'affiche depuis 2 ans. Mais début juin, un quotidien proche du pouvoir a publié une lettre attaquant le spectacle, comme le raconte Peter Erdély, journaliste pour un média indépendant.
Cette lettre disait que la pièce visait à propager l'homosexualité, tout ça parce que l'un des personnages est censé être gay, et elle affirmait que le spectacle risquait de pousser les jeunes garçons à changer d'orientation sexuelle.
La comédie musicale est accusée de propager l'homosexualité, alors que la population hongroise diminue et que la Hongrie est menacée par une invasion étrangère, affirme l'auteur de la lettre. Beaucoup jugent ce texte ridicule. Mais le directeur de l'opéra est, lui, monté au créneau en déclarant dans la presse hongroise « Faut-il interdire Mozart parce que dans les noces de Figaro, un homme se déguise en femme ?» La polémique a en tout cas attiré les spectateurs. Gabriela Horn s'est précipitée pour acheter des places.
Les enfants ont pris des cours de danse, alors j'ai pensé qu'ils aimeraient voir le spectacle. Et je suis surtout venue parce que je suis énervée par ce gouvernement et par la publication de cet article. Si le gouvernement est contre les gays, eh bien moi je suis pour, je les soutiens. Mais au fond, tout ça, c'est complètement stupide, parce que le thème de la pièce n'est pas l'homosexualité, c'est secondaire. Ça parle surtout de la classe ouvrière, d'un village minier, et de gens qui disent « nous ne voulons pas un monde de tyrans ».
L'article qui a causé la controverse annonce-t-il une croisade homophobe lancée par le gouvernement nationaliste de Viktor Orban ? La réponse du journaliste Peter Erdély.
Je ne pense pas que le gouvernement mène une campagne homophobe, mais il y a des intellectuels proches du gouvernement qui ont une vision ultra-conservatrice de la société, des relations entre hommes et femmes, et ils mènent une sorte de guerre culturelle. Ils pensent que l'art est politique et que seul l'art de droite est valable.
Ces conservateurs sont en tout cas en décalage complet avec le public budapestois. Les spectateurs ont plébiscité la comédie musicale. Elle affiche complet jusqu'au dernier soir.
Ces dernières semaines, des cartables ou sacs à dos décorés de grands drapeaux néerlandais fleurissent aux fenêtres des maisons aux Pays-Bas, un événement récurrent en cette fin d'année scolaire, Antoine Mouteau.
C'est la fin officielle d'une longue période. Après des années de scolarité, parfois heureuses, parfois aussi angoissantes et éprouvantes, les lycéens néerlandais ont enfin reçu les résultats de leur examen final. S'ensuit alors une véritable invasion de drapeaux néerlandais et de sacs à dos dans tout le pays. Si vous en apercevez dans une rue, cela veut tout simplement dire que c'est ici que vit un heureux détenteur du diplôme de l'enseignement secondaire. Le drapeau tricolore flotte ainsi pendant des semaines pour signifier au voisinage la réussite de l'enfant de la famille. Il arrive aussi de croiser des drapeaux étrangers quand les parents sont originaires d'un autre pays que les Pays-Bas. Dans certains endroits à l'identité régionale très marquée, les écoliers préfèrent parfois attacher leur sac à dos au drapeau local plutôt qu'au drapeau néerlandais. Ainsi, dans la Frise, il n'est pas rare de voir des drapeaux frisons. Cette tradition du drapeau et du cartable est vraisemblablement née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au début, certains, notamment les royalistes, étaient loin de voir cette nouvelle mode d'un très bon œil. Pour eux, à l'époque, hisser un drapeau ne devait se faire que les jours d'importantes fêtes nationales, par exemple. Selon certains historiens, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Néerlandais ont commencé à ajouter un cartable au drapeau, l'idée étant de ne pas les confondre avec un drapeau officiel.
En France, le calme est revenu sur Nantes après des émeutes urbaines la semaine dernière, suite à la mort d'un jeune homme de 22 ans, Aboubacar Fofana, lors d'un contrôle de police. Résultat, des dizaines de véhicules incendiés, de commerces détruits. On est loin cependant du lourd bilan humain qu'avait entraîné en 2005 à Clichy-sous-Bois, puis en 2007 à Villiers-le-Bel, la mort de jeunes aux prises avec la police. Ces affrontements à répétition, plus de 150 depuis 2014 dans les quartiers, et plus de 400 400 si l'on comptabilise tous les dérapages violents des manifestations de rue. Ces affrontements sont-ils une spécificité française en Europe? On en parle avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Le déclenchement de guérillas urbaines après le décès d'un jeune poursuivi par la police, est-ce qu'on ne voit cela qu'en France, Daniel?
Non, pas du tout. Dans la plupart des pays, de tels scénarios se reproduisent. Les exemples ne manquent pas. En mai dernier, la mort d'un migrant sénégalais a entraîné des manifestations violentes dans le quartier de Lavapiés à Madrid. En juin 17, le décès lors d'un contrôle policier du jeune Edson a entraîné des troubles en plein Londres. Des troubles, il est vrai, moins graves que les scènes d'émeutes ayant pendant plusieurs jours en août 2011 secoué Londres, Birmingham et Manchester après le décès d'un homme noir de 29 ans abattu par la police. Cette même année, la ville belge de Gilly a connu deux nuits d'émeutes à la suite du décès au cours d'une interpellation d'un toxicomane. Plus récemment, en janvier 2017, des affrontements ont eu lieu dans un centre de migrants près de Venise après la mort d'une jeune ivoirienne dans des conditions peu claires. Même chose à La Haye, aux Pays-Bas, en juillet 2015, suite au décès d'un Antillais détenu par la police.
Donc la France est, si l'on peut dire, dans la norme?
Malheureusement, non. Elle se distingue beaucoup de ses voisins en matière de fréquence de ces événements, de leur gravité et de la nature même des émeutes. Ainsi, depuis 2004, une vingtaine de morts violentes de personnes aux prises avec la police ont entraîné autant d'émeutes dans les villes de France. Ce nombre dépasse la totalité de ce type de décès dans l'ensemble des autres pays de l'Union. Par ailleurs, comme le souligne l'anthropologue Alain Berthaud, auteur entre autres de deux livres de référence sur la question, « Le temps des émeutes » et « Les enfants du chaos », les émeutes urbaines à la française sont pratiquement les seules à se dérouler principalement dans un lieu particulier, les quartiers déshérités des banlieues.
Alors comment en est-on arrivé là, Daniel ?
Pour Alain Berthaud, dont le site Anthropologie du présent recense et analyse toutes les émeutes urbaines en Europe et dans le monde, les quartiers ne sont le lieu privilégié des émeutes qu'en France, alors qu'ailleurs, les troubles se produisent soit en centre-ville, soit à la frontière des quartiers aisés et populaires, soit encore dans les universités ou bien dans des endroits très sensibles comme les prisons ou les centres d'accueil pour migrants. Ce qui peut, selon lui, expliquer la gravité et la répétition de ces troubles dans l'Hexagone, où toute une population se sent non seulement exclue de la société, mais encore invisible. Une auto-dépréciation qui accrédite l'idée chez beaucoup de ces jeunes, souvent issus de l'immigration, qu'ils n'ont plus rien à perdre. D'où une autre quasi-spécificité française, les incendies de voitures de la Saint-Sylvestre, l'expression même de l'acte gratuit désespéré.
Est-ce que chaque pays a son type d'émeute spécifique ?
On peut effectivement déceler des différences dues aux structures de la société ou plus simplement aux réalités socio-économiques du moment. Les manifestations suivies de dérapages violents concernent souvent les politiques d'austérité en Italie et surtout en Grèce. La protestation contre la présence des réfugiés, ou au contraire en leur faveur, est bien sûr monnaie courante là où ils sont les plus nombreux, en Allemagne ou en Grèce. En France, même si cette question semble cliver la société, elle engendre peu de troubles publics, contrairement aux mouvements sociaux de tout genre. Quant aux matchs de football qui dégénèrent en batailles rangées, ils sont fréquents en Angleterre ou en Belgique. Sans doute une indication que dans ces pays, la contestation sociétale a du mal à s'organiser et ne s'enflamme qu'avec des foules réunies autour d'une passion commune. Enfin, pour en revenir aux émeutes proprement anti-police ou anti-autorité, comme celle de Nantes, elles constituent plus du tiers des troubles publics en France, mais moins de 15% en Belgique ou en Angleterre, 10% en Allemagne et moins de 5% en Italie. De façon un peu plus surprenante, ces manifestations sont plus fréquentes en Espagne ou en Suède, mais on est très loin de l'ampleur qu'elles revêtent en France.
Merci Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt sur Accent.
À bientôt Laurent.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain dès 17h40 en universel. Et tout de suite, Accent d'Europe sur votre téléphone mobile avec l'appli Pure Radio.